l'étrange beauté du quotidien. Écoutez avec les yeux les vies extraordinaires de gens ordinaires.
Comme il est doux parfois de changer de cap. Comme il est doux parfois d'emprunter les chemins de traverse. Comme il est doux parfois de choisir les pas de côté. Ceux qui vont bien, qui réalignent. Mais attention, cela ne veut pas dire que c'est une chose facile. Qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 50, quitter l'autoroute, la 4 voies ou la grande nationale, c'est comme se jeter dans le vide. Ça signifie repartir presque de zéro et être prêt ou prête à affronter l'inconnu. Que dis-je, les inconnus. Parce qu'il n'y a pas d'hiérarchie à ce niveau-là. Certaines personnes vont déménager 20 fois dans leur vie ou partir à l'autre bout du monde sans avoir l'impression de quitter leur zone de confort. Alors que pour d'autres, changer de coupe de cheveux, c'est déjà grimper l'Everest. Cette histoire de chemin de traverse, je crois que c'est ailleurs que ça se joue. C'est davantage à l'intérieur de soi, au plus profond de soi. Invisible à l'œil nu, cette chose-là. Mais quand ça arrive, on le sent. À peine un frisson, parfois, un cœur qui bat un poil plus vite, ou alors la trouille, la grande peur, la vraie, celle qui fait pas rigoler. Vous qui écoutez l'étrange beauté du quotidien, vous avez le droit de ne pas me croire, mais je vous jure, quand ça arrive, cette frousse-là, c'est que vous êtes au bon endroit, à votre juste place, au-delà des doutes, des questionnements, des incertitudes. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire, jamais. Mon invité du jour partagera-t-il cette vision de la vie ? Il nous le dira peut-être. Une chose est sûre, il est là, bien là, et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Bienvenue à toi, Alban, et merci pour ta présence.
Bonjour Eva, merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir. Très belle introduction. Très très belle.
Et alors tout d'abord, pour que les auditoristes sachent à qui ils ont affaire, peux-tu dire en quelques mots qui est Alban Manet ?
Eh bien ouais, carrément. Alors je m'appelle Alban Manet, j'ai 23 ans. Voilà, je savais que cette question allait arriver, tu me l'avais dit, je la connaissais, et voilà, déjà ça je l'avais pas anticipé. Assez stressé à l'idée de faire cette émission déjà, si je devais me présenter c'est vraiment le truc qui me régit le plus en ce moment même, mais très content quand même. Donc ouais, Alban Manet, 23 ans, astigmate et hypermétrope, allergique au pollen, je fais une coloscopie tous les 2 ans pour un suivi, ça c'est un truc familial. J'aime pas trop les légumes. J'aime très peu de légumes même, j'ai pas une alimentation très variée, le sport j'ai un gros problème de motivation, mais sinon j'aime m'amuser, j'aime les belles choses, j'aime rire, j'aime faire rire, j'aime le cinéma, j'aime la musique, j'aime partager avec les gens, et voilà, la radio aussi, on peut peut-être le dire tout de suite, enfin, après un service civique dans une radio, là, je suis actuellement stagiaire à la Skol Radio. Et voilà, je connais quelqu'un que vous connaissez peut-être, chers auditeurs, puisqu'elle est au micro avec moi en ce moment.
Et oui.
Et voilà, j'ai l'impression que c'est déjà pas mal.
Eh ben, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Le principe de cette émission est simple. Alban est là pour nous parler de son histoire, de ce qui l'anime, le fait avancer. Et cela à travers 2 photos et 2 morceaux musicaux. La première photo et le premier morceau ont été choisis par lui. La deuxième partie de l'émission sera peut-être plus déconcertante pour notre invité puisqu'elle concerne mes choix à moi. Mais rentrons dans le vif du sujet avec les choix d'Alban. Donc Alban, tu as déjà la photographie sous les yeux.
Oui.
Et je vais d'abord te demander de la décrire le plus précisément possible afin que les auditeurs, auditrices puissent l'imaginer au mieux. Tu peux penser aux couleurs, à des détails par exemple. Voilà.
Ok, j'avais pas prévu que ce soit moi qui la décrive. Ok, c'est intéressant. Alors je tiens à dire quand même que c'est... Enfin, je l'ai déjà dit un peu au début, mais cet exercice-là de parler à mort de moi, tout, ça me... J'ai pas l'habitude. Voilà. Donc, c'est cette phase introspective...
Rassure-toi, comme chaque invité. Ouais, comme chaque invité.
Génial. Ok. Du coup, la première photo que j'ai choisie, c'est un... Donc, je la décris objectivement ou
Comme tu veux.
Okay.
Bah, que les auditeurs, auditrices puissent quand même l'imaginer.
Ok. Donc, c'est une photo tirée d'un Polaroid. Je suis plus jeune sur cette photo. C'est une photo où je me tiens dans une chambre. Voilà, j'ai un jean, un pull avec plein de couleurs fluo. Genre, il y a un partenariat avec Stabilo. Et j'ai un peu, voilà, je tends les bras en mode, hey, bienvenue chez moi. On peut voir donc un petit lit, une place derrière, une affiche de Forrest Gump et un meuble avec micro-ondes, petit four, pain de mie et autres aliments. Voilà. Globalement, c'est ça. Est-ce que tu, pour toi, il faudrait rajouter quelque chose?
Ah, c'est toi qui choisis.
Bon, et j'ai un grand sourire sur la photo aussi.
Oui, c'est important ça quand même.
Et j'ai un grand sourire, c'est vraiment en mode hey, bienvenue chez moi. Voilà, c'est un peu le délire de la photo.
Et alors, pourquoi avoir choisi précisément cette photo-là? Qu'est-ce qu'elle t'évoque?
Eh bien, ouais, aussi ça. Qu'est-ce qu'elle m'évoque? C'est assez particulier, je pense, de commencer l'émission comme ça. Je savais pas si on commençait par la photo.
J'ai oublié de te le dire.
C'est pas grave, c'est intéressant aussi. C'est juste quand je dis que j'aime rire, on va croire que je suis un menteur. Du coup, parce que alors tu m'as dit qu'il fallait choisir une photo d'un truc de ma vie qui me venait. Donc j'ai vraiment j'ai pensé à plein de choses. Je revoyais des photos de quand j'étais petit, des photos avec ma famille, des photos quand je m'amuse. J'ai pas mal voyagé et tout. J'ai pensé à plein de trucs joyeux, à raccrocher à des bons souvenirs. Et tu m'as dit, il faut prendre la première qui te vient, parce que c'est vrai que j'étais en proie à une grande hésitation. Et en fait, la première qui m'est venue, c'est celle-là. C'est cette photo, j'ai 18 ans. Et je ne sais pas trop à ce moment-là, je crois. Mais c'est peut-être l'un des pires moments de ma vie. Voilà.
Ouais.
Et c'est en fait cette photo, je sais pas, elle m'a marqué. Je sais qu'elle existe. Je me revois me prendre en photo avec mon Polaroid dans mon petit appart, parce que là, ce qui se passe, c'est que on est entre deux confinements. Je commence les études supérieures. Je suis à l'université. J'ai commencé une licence média, culture et société au grand dam de mes parents, qui me disaient que l'université c'était pas fait pour moi. Et j'étais en mode mais on s'en fout, ça va être bien. Si, c'est bon. Donc voilà, Covid, je suis à Lyon, à Bron pour être précis, juste à côté. Et je connais personne, j'ai un pote qui est dans le centre de Lyon, mais on peut pas forcément trop se voir. Je connais personne, il y a les masques, les études me plaisent rapidement, pas du tout. Je suis dans un appartement qui fait 17 mètres carrés, qui coûte beaucoup trop cher, je crois que c'est 550€ par mois. Et voilà, c'est horrible. C'est horrible comme moment, en plus avec ma copine, c'est plus ma copine. Donc ça se passe pas bien, ma mère elle est malade. Donc en fait c'est horrible et je sais pas pourquoi cette photo j'y tiens particulièrement parce que je fais genre je suis content, tu vois, c'est un truc de ouf et donc c'est vrai que ça, on commence l'émission sur les chapeaux de roue et je pense que tu l'as pas vu venir mais justement je trouvais ça intéressant aussi de voir sur quoi t'allais partir avec ça mais j'essaie de faire, tout va bien, je me dis allez c'est le début d'une nouvelle vie, j'ai 18 ans, ça y est, quand on est petit on est là, ah, tu verras quand je serai majeur et tout, je m'en fous, je serai libre. Et voilà, ça a pas très bien commencé. Et maintenant, je m'en rends compte. Et cette photo, il y a un affect un peu particulier, quoi. À ce moment-là, c'est moi et j'ai quand même envie d'y croire, quoi.
Tu vas voir que je l'ai peut-être un tout petit peu vu venir quand même.
Écoute.
Et oui,
super.
Parce que moi, cette photo, j'aurais envie de lui donner comme titre le flou fou de la vie ou le fou flou de la vie, comme tu veux. Et en Polaroid, s'il vous plaît. Oui, tu le sais, je te l'ai dit, j'aime bien le concept des instantanés. Et ça rajoute un côté imperfection obligatoire dans les Polaroids, je trouve, et moi ça m'émeut. Enfin, cette photo, elle m'émeut. Et pourtant, la première chose qui tape à l'œil, c'est la joie. Ton sweat multicolore aussi, quand même, il faut le dire.
Faute de goût. Surtout la faute de goût qui marque.
Mais moi, je trouve qu'elle va bien dans cette photo. Enfin, ouais. Voilà. Mais oui, la joie, ce sourire aussi grand que tes bras, là, ces bras pleinement ouverts, peut-être. Alors peut-être que c'est parce que j'ai l'impression que c'est ton premier appart d'étudiant, entre guillemets, de grand. Donc là, je m'étais pas trompée. L'oisillon qui quitte son nid, tout ça, c'est toujours un peu flippant. Et en fait, bah oui, moi, je la trouve très émouvante, cette photo, tu vois, finalement. Mmh. Donc, j'allais te poser la question. Peut-on ressentir et la joie et le trouble en même temps? Et en fait, tu viens d'y répondre.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est... Mais je suis d'accord. C'est intéressant que tu le vois aussi parce que, carrément, mais elle transpire... Elle transpire quelque chose d'un peu triste, tu vois. Même,
oui, mais les deux en même temps.
Ouais. Oui. Mais tu sais, je me revois en plus. L'un des pires trucs, c'est que je me revois poser le Polaroid, tu vois, et me prendre en photo comme s'il y avait quelqu'un qui me prenait. Et en fait, non, je suis tout seul. Et je me prends en photo tout seul.
Ouais,
quoi,
alors
tu
ça,
vois.
Je l'avais pas capté.
Moi, je le sais, tu vois. Ouais, et du coup, c'est vrai que cette photo, il y a de ça. Ouais, carrément.
Bon, 18 ans, premier appart. Et alors, moi, j'aimerais bien aussi que tu nous parles un peu de l'Alban d'avant la photo. Justement, quel enfant tu étais, d'où tu viens. Comme tu veux, hein, mais pas forcément quelques mots, quoi. Quel enfant étais-tu?
Quel enfant j'étais quel enfant j'étais? Quel enfant j'étais? Je pense que. Donc moi déjà j'ai grandi à Grenoble dans une famille aimante, mes parents sont restés ensemble et tout, j'ai deux petites sœurs aussi de 2 et 5 ans de moins. Comment j'étais quand j'étais petit, je lisais beaucoup, j'ai toujours aimé rire, j'ai toujours aimé m'amuser, j'ai toujours aimé me foutre de la gueule de mes sœurs et m'embrouiller un peu avec elles. prendre la parole, faire rire les gens, ça a toujours été un truc que j'ai cherché. Mais des fois, même quand je revois des vidéos, quand je repense à des trucs, j'étais super lourd, j'étais lourdingue. En fait, j'avais des exemples de gens qui faisaient des blagues et je me suis dit, je vais faire pareil. Et en fait, c'est vraiment une voix criarde qui essayait tout le temps d'occuper l'attention à mort. Et ouais, c'était un peu complexe. J'étais assez stressé aussi. Mais ça, je le savais pas à l'époque. Pour moi, c'était normal. Ouais, j'étais bon à l'école. J'étais très, très bon à l'école. Pourtant, je faisais pas grand-chose. Et je notais pas trop les devoirs dans le cahier de texte. Mais comme j'avais des bonnes notes, on me laissait un peu tranquille. Et donc, ouais, collège, lycée, j'ai couru après l'amitié. Voilà, je pense que j'étais lourdingue aussi à ce niveau-là. Et ouais, au lycée pareil, au lycée ça allait mieux. Après j'étais plus dans la campagne, j'étais dans la ville. Donc mais ah ouais, déjà putain, aussi campagne profonde, c'est-à-dire que typiquement quand je suis arrivé au collège et que j'ai entendu le mot couple, être en couple, sortir avec quelqu'un, c'est quoi, on est plus juste amoureux, on est,
ah oui, OK.
Tu vois, il y a plein de termes, les survêtements et tout, et ouais. Voilà, c'était la ville. Alors pourtant c'était toujours, je suis toujours dans la campagne à ce moment-là, mais c'est juste encore moins la campagne que là où j'étais. Et donc Grenoble, la ville, après là lycée, j'ai commencé à plus m'épanouir et tout, donc c'était sympa et j'ai fait enfin, je sais pas, en fait, ouais, je suis toujours dans l'enfance à ce moment-là. Ça compte toujours dans ta question au lycée.
Parce que, enfance, adolescence, c'est jusqu'à tes 18 ans, quoi, jusqu'au moment de la photo.
Ouais, ok. Bon, bah ouais, non, dans ces cas-là, voilà, ça va dans tous les sens, je sais même pas trop par
mais
où passer.
Mais c'est ça le but de l'émission.
Ouais,
on
ok.
On a le droit.
Super. Et bah, moi, j'ai toujours cherché après, couru après l'amusement et l'amour des gens, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours essayé de kiffer un peu. Des fois, j'étais stressé. C'était galère. J'ai commencé l'écolo aussi en troisième. Pourquoi pas plus tôt, je sais pas. Parce qu'en plus, mes parents, ils se sont rencontrés comme ça. Et dès que j'ai découvert ça, je voulais plus jamais m'arrêter.
Et en tant que, là, en tant que
colon,
jeune.
Ouais, que ouais. Jeune. Ouais, 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 non, on n'est pas encore animateur en troisième.
Voilà,
ça, je suis pas trop.
Mais oui, non, je suis bête.
Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai découvert un truc où j'ai cherché à m'épanouir en dehors des cours aussi pas mal. Parce que c'est là, j'ai aussi été pompier volontaire. Et ouais.
Un peu hyperactif.
Bah c'est ça en fait, mais c'est sûr, comme je t'ai dit, le truc de, il y a les cours et c'est bien, t'as des potes là-bas, mais le fait de pouvoir aussi kiffer avec les gens en dehors, c'était aussi ça qui me bottait bien. Du coup, et rapidement, dès que j'ai pu, animateur, pompier, parce que j'ai fait aussi jeune sapeur-pompier, donc ouais, pompier animateur au lycée, et j'étais aussi dans une option américaine, ça c'était...
Option américaine.
Ouais, option internationale au baccalauréat.
Okay.
Donc, on avait 8 heures de cours en plus en anglais, littérature anglaise et tout. C'était horrible. Je lisais pas les bouquins, j'en avais rien à foutre. Et j'avais le pire accent de la classe. Donc, voilà.
Bien rempli.
Ouais, ouais, voilà.
Et alors, juste pour finir sur la photo, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur le Alban de 18 ans, mais je pense que tu as bien résumé tout à l'heure le moment où tu prends la photo. Moi, il y a juste le petit clin d'œil parce que j'avais évidemment vu l'affiche de Forrest Gump, même avec une photo floue, imprimée, fait maison à moi, hein, pas terrible, terrible. Et je me demandais si le cinéma et toi, c'était déjà une grande histoire d'amour à cette époque-là.
C'est arrivé tard. C'était pas de l'amour en tant que tel, j'avais toujours aimé, parce que ça aussi en fait quand j'étais plus jeune, en fait au collège, j'étais à mort à jouer aux jeux vidéo et à mater YouTube, je suis une encyclopédie de l'époque, j'adorais ça, et lycée aussi, et j'aimais bien les films, j'en ai regardé beaucoup quand j'étais petit, mais sans prêter attention en fait que je regardais des films en tant que tel, c'est juste que c'était comme ça dans les mœurs, et c'est arrivé au confinement où je me suis dit ok en fait là j'ai l'impression de rien connaître, j'avais pas vu Star Wars en vrai ni Seigneur des Anneaux, enfin tu vois c'était, j'avais pas de truc précis et j'ai demandé aux gens dans mon entourage, faites-moi une liste des films à voir et donc confinement je me la tuais à genre plus de 3 films par jour, j'étais là genre maté à mort et j'adore et Forrest Gump c'est mon premier, le premier film où je me suis dit waouh la claque que je viens de me prendre, c'est la première fois que je pleurais devant un film et tout, j'ai adoré et donc ça justement c'est mon cadeau d'anniversaire, cette affiche de mes 18 ans, voilà. Enfin c'était pas le seul, j'ai aussi eu un four et du PQ, enfin, globalement c'est ce que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire de mes 18 ans et,
mais c'était le début quoi
et ouais c'est ça,
du cinéma, du goût fort pour le cinéma,
ouais, me rendre compte que il y a des, enfin les films, les vidéos quoi, tu peux avoir des émotions avec ça, tu vois, c'est assez fou parce que il y en a où tu sais c'est par exemple je sais pas, tu peux pleurer, j'ai pleuré je crois un peu aussi devant La Famille Bélier, mais je le compte même pas parce qu'en fait tu sais c'est trop facile, tu sais, c'est tout est fait pour. Alors que là, Forrest Gump, c'est un truc qui est suggéré, et c'est tout le film où tu t'accroches au personnage, et tu te dis, waouh, ok, les mecs, ils font leur popote et c'est toi qui t'appropries le truc et qui vois si ça te touche ou pas. Et ouais, et ça a commencé aussi, ça a commencé vraiment comme ça. Ouais.
Eh bien, vous êtes toujours dans l'étrange beauté du quotidien. Nous sommes avec Alban et nous allons maintenant écouter son choix musical, Levels de Avicii.
We'll be right back.
C'était Levels du musicien et producteur suédois Avicii, morceau sorti en 2011. Apparemment une petite révolution dans le monde de l'électro-dance music, autrement appelé EDM. Avec un sample assez inattendu, Avicii choisit la voix de la jazzwoman Etta James dans Something Got a Hold on Me de 1962. Eh bien moi ça m'a cueilli cette voix d'Etta James et je me demandais si c'est un des éléments qui t'a plu dans cette chanson ou si c'est totalement autre chose.
Eh bien justement, en fait, j'ai réfléchi un peu là pendant la musique, ça m'a fait plaisir de la réécouter. Et je me rends compte que j'ai peut-être été un peu dur en fait avec moi-même quand je me suis décrit quand j'étais plus jeune, parce que je pense surtout que, on va le voir, enfin quand je vais expliquer pourquoi j'ai pris cette musique, j'étais surtout un enfant qui a besoin de s'exprimer énormément en fait. Ok, je faisais beaucoup de blagues et j'étais lourd, mais justement en fait parce que j'avais besoin de parler, et du coup justement dans tous mes bulletins j'étais bavard, je lisais beaucoup mais j'écrivais aussi beaucoup d'histoires, je dessinais à mort, je faisais que ça. Le truc que j'ai pas essayé de faire à la limite c'est chanter, et heureusement, parce que le peu de fois où je m'y suis risqué c'était terrible. Et aussi je dansais, je fais du hip hop pendant 2 ans et j'en ai fait, pourquoi? Parce qu'on m'a dit fais-en, parce que tu danses super bien. Et pourquoi on m'a dit ça? Parce qu'il y avait un truc avec mes parents et mes sœurs, des fois on était en train de manger et d'un coup ça allait sortir le poste radio et ça mettait le CD compile de la compile de papa ou alors Energy Hits, je sais pas quoi. Et donc quand on était petit avec mes sœurs on faisait des spectacles à mort, on faisait à fond, on dansait et tout, on faisait que ça, et c'est horrible, ça mettait des déguisements et tout, j'ai tout amuser la galerie, danser, et je dansais très premier degré, et quand je repense à ce que je faisais c'était horrible, mais j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours encouragé. Je revois ma mère, le sourire figé quoi, elle sortait tout le temps le caméscope pour avoir des vidéos des mêmes spectacles en boucle quoi. Mon père il bougeait un peu la tête, voilà, et bon lui était moins démonstratif, mais ouais on dansait tout le temps avec mes sœurs sur, et ça c'est cette musique qui me revient par rapport à ce moment là c'était... Ouais, il y a un truc, quoi. C'était la musique totem du spectacle où on se la mettait et on dansait à fond. Et je revois le clip où le mec, justement, il est dans un bureau. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Si, oui, je l'ai regardé.
Voilà, et il se laisse emparer par la musique. Et nous, c'était pareil. Je faisais du jeu de jambes. C'était horrible. On aurait dit que je faisais une crise d'épilepsie, mais j'y allais quand même. Et voilà, c'est cette musique. Ça, par contre, c'est un peu l'inverse de la photo. Là, c'est vraiment des bons souvenirs, un truc qui réchauffe le cœur, quoi.
Et alors, moi, j'allais te demander comment tu l'as connu, Avicii, mais c'est peut-être justement par ces histoires de compiles.
Ouais, c'est ça, ou même c'était la radio. Quand j'étais petit, on écoutait radio, puis en fait, c'était mon père qui décidait de la musique dans la voiture, et il y en avait quelques-unes qui revenaient comme ça, pas mal.
Bah moi, je trouve que oui, comme tu l'as dit, quand même, comme la photographie, il y a un ingrédient principal, c'est la joie. Mais alors là, une joie qui monte en intensité au fil des minutes. Il mène à des chemins intenses et biscornus. On a envie de bouger, évidemment, dans tous les sens. On a envie de se laisser porter. Comme si on pouvait oublier de se regarder et oublier qu'on nous regardait. Et alors, est-ce que cette joie intense, pure, totale, elle fait profondément partie de ta vie? Mais en fait, je crois, en posant ma question, je me rends compte que tu as commencé à y répondre.
Ouais, je pense, mais c'est un truc, c'est assez spécial parce que il n'y a pas de bouton on-off, tu vois, c'est pas ou alors c'est pas je décide que cette joie à l'état pur elle sort comme ça, c'est vraiment, il y a des moments ça me traverse, et tu vois, typiquement quand je dansais, pourtant je danse super mal, hein, c'est très grave parce que je passe pour le frère de Denitsa là dans Danse avec les stars, alors qu'en fait, juste c'était, je vivais le truc quoi, j'étais à fond et tout, puis en plus, pour peu que ça me sauce un peu, que ça dise ouais Alban, il m'en faut pas plus, et ouais, carrément, il y a de ça, il y a des choses qui brûlent un peu en moi, et des fois ça sort, voilà, et des fois ça, sinon c'est un peu fermé, j'avoue. Et voilà, des fois, ça me traverse comme ça.
Oui, mais en tout cas, ça fait quand même profondément partie de ton, de ta vie.
Ouais, je fais,
c'est
un
ingrédient essentiel.
Je pense, je me rends compte au fil du temps. Il y a une sensation. Enfin, je me suis vraiment découvert l'année qui vient de s'écouler là, et je me rends compte que je suis une boule d'émotions.
Oui,
voilà. Voilà, une petite boule d'émotion et qui comprend pas trop ce qui lui arrive.
Je crois qu'on va en parler après.
Ok, super.
Et alors, pour rester sur la chanson, moi, je parlais du regard des autres et j'aimerais aussi que tu nous parles de ça, de ton rapport au regard des autres et de la fête. Et je fais un peu exprès de mettre les deux ensemble et je sais pas si tu devines pourquoi.
Pas tant, ouais, c'est intéressant.
Déjà, ton rapport au regard des autres, global. Tu l'as un peu dit quand tu dis je cherchais l'amour des gens.
Terrifiant, un rapport aux autres qui est pas forcément le meilleur, je pense. Beaucoup chercher l'approbation. Je déteste rencontrer des personnes, typiquement, parce que Ça veut dire qu'ils vont penser un truc de moi, et puis comme ils ne me connaissent pas, ils vont peut-être mal prendre ce que je vais dire, ils vont peut-être se tromper sur mon compte et tout. Voilà, au niveau vestimentaire, tu l'as dit dans ton introduction aussi, il y en a qui flippent en changeant de coupe. Voilà, je sais bien pourquoi t'as dit ça.
Ah non.
Parce que bon bah voilà, moi je suis terrifié. Changer de coupe, changer moindre truc, tu vois. Aujourd'hui
eh ben,
je suis
ne
venu.
Je savais pas, tu vois.
Et ben voilà, mais aujourd'hui je suis venu avec une casquette, par exemple. Je vais te dire un truc très sincère, je l'ai acheté. Je suis terrifié quand je la mets parce que je mets pas de casquette d'habitude et j'ai trop peur. Et donc par exemple à la radio quand on va en cours, je l'ai pas encore mise parce que j'ai trop peur qu'on dise ouais, bon il met un truc nouveau et tout trop bizarre et tout. Donc je la teste un peu les week-ends, il y a une petite période d'essai de la casquette où voilà par intermittence je la teste, je vois ce que ça donne. Ok, on me regarde pas trop bizarre et tout. Bon, moi, je vais peut-être essayer de la mettre de manière plus courante. Donc ouais, non, regard des autres complexe. Quand les gens kiffent et rigolent ou quoi, là je suis pareil, traversé. Je peux être on fire, j'adore. Mmh. Sans parler de rire aussi, mais s'il y a des trucs forts avec les gens ou quoi, où on est à l'aise, ça va super. Et par contre, quand il y a de l'insécurité ou voilà, je me soucie de ça, ça peut être compliqué.
Et alors avec ce regard, ce rapport au regard des autres, tu vois pas pourquoi je parle de la fête en même temps? Parce que t'aimes faire la fête, c'est une musique de fête.
Ouais, ouais.
Et en général, quand on est en soirée, parfois on prend un peu des produits qui font que ouais, le regard des autres, il change un peu. Et qu'on
bah,
se
carrément
désinhibe.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, ça, c'est un autre truc aussi. Bah, c'est vrai, t'as raison. Bah, de toute façon, ouais. Enfin, bon, bah, du coup, tu dois développer ou je.
Ah,
ou
vas-y,
j'explique.
C'est toi.
Ok. Ouais, le rapport à la fête. Bah, du coup, moi, j'ai commencé à faire la fête. Alors, c'est pareil, moi, quand j'étais petit, je faisais pas de bêtises. Je bavardais beaucoup. J'avais trop peur qu'on m'engueule. J'avais trop peur, justement, que, tu sais, les profs, ils soient un peu déçus de moi, que mes parents aussi soient déçus de moi ou quoi. Donc, je faisais pas trop de bêtises. Et j'étais en mode, je boirais jamais, je fumerais jamais. Bon, il s'avère qu'après, j'ai eu 15 ans. Et donc là, ça a un peu rebattu les cartes. Et ouais, j'ai fait la fête. Et c'est vrai, c'est assez connu, les personnes un peu anxieuses, l'alcool par exemple, les trucs un peu psychotropes comme ça, c'est juste, ça te soulage à mort. Et donc c'est vrai que j'ai bien kiffé, ça soulage beaucoup. Maintenant, il y a aussi un double effet qui se coule. C'est que ouais, j'adore faire la fête. Mais alors par contre, le lendemain matin au réveil, où je suis en mode, oh putain, j'ai fait ça. Oh là là, mais c'est horrible. Et je suis un pro de envoyer un message d'excuse, ou même sans parler d'un message d'excuse, mais un message pour prendre la température. Tu vois, en mode, ça va? T'as passé une bonne soirée hier? Ouais. Ça va, j'ai rien fait de. Voilà. Parce que, alors pourtant, j'ai pas forcément fait un truc que j'aurais fait en temps normal, parce que je parle pas forcément de montrer mon cul à la terre entière.
Oui, oui, oui.
Mais tu vois, dans des blagues, ouais, ou juste dans le fait de prendre de la place, dans la manière de prendre de la place, je me dis, ah putain, j'ai fait chier tout le monde, et la peur de faire chier le monde, ça me prend aux tripes un peu. Et ouais. Et ça, ce sentiment grandissant le matin, il y a eu une phase au fil du temps où, en soirée, j'étais peut-être. Je me lâchais de plus en plus. Et le matin, je me réveillais aussi de plus en plus en mode, putain, à quoi bon, franchement.
Ouais, et là, t'es dans un début d'équilibre entre garder le plaisir de la fête et peut-être avoir moins besoin d'alcool ou autre pour te désinhiber. Ou pas encore.
Ouais, si. Bah en fait, c'est pareil parce que je bois pas de l'alcool en me disant, oh, ça va me désinhiber. C'est
oui,
plus parce que je ressens sincèrement un truc de, putain, c'est cool, on kiffe. Surtout que c'est un. L'alcool en lui-même, je m'en fous, c'est le moment que je passe avec les gens qui est super, tu vois.
Oui, je suis d'accord.
Et je m'amuse. Et du coup, c'est ça. Et en fait, je sais pas me limiter dans la vie. Je suis quelqu'un de l'excès, vraiment à mort. Et un être de passion. Et du coup, ça fait que si ça fait la fête, moi, je vais faire la fête, mon gars. Et du coup, ouais, maintenant, c'est pas un équilibre. Enfin, j'essaie de trouver l'équilibre parce que justement, à la fin, c'était plus du plaisir, quoi. Et même, j'ai eu des phases où ça se passait pas très bien les soirées. Je m'embrouillais. J'ai un ami avec qui, tu vois, ça s'est pas bien. Enfin, c'est pas les soirées qui ont fait ça, mais ça a participé, tu vois. Il y avait quand même des embrouilles, trucs où tu. Tu sais, ça va pas si tu bois et que ça va pas, ben
oui,
ça se passe pas bien, quoi.
Mmh.
Et donc là, maintenant, j'essaie de trouver l'équilibre où je me sens. J'ai plus peur de ce qui va se passer si je bois, je me sens pas mal en me réveillant le matin, je m'amuse en buvant ou pas. Enfin, tu vois, c'est encore un équilibre que je cherche à trouver, mais que maintenant, j'accepte le fait qu'il faut le trouver. Tu vois, c'est
oui,
plus ça.
Oui, oui, oui.
Je me dis plus, putain, je suis trop bizarre ou fais chier, pourquoi. Voilà.
Et puis t'es jeune encore, t'as encore le temps pour trouver l'équilibre. On a toute la vie hein, pour ça. Hein.
Ouais, moi j'ai. Mais c'est. Non, pareil, ça, putain, l'âge. Là, j'ai 23 ans, je vais avoir 24. 24, c'est proche de 25. 25, c'est le vieux vingtenaire, c'est-à-dire qu'après, c'est 30. Et je suis terrifié à l'idée de vieillir.
Waouh,
ouais.
Ah ouais.
Ouais, ouais, ouais,
wow.
Ouais.
Bon, on va quand même passer à la deuxième partie de l'émission.
Allez.
Donc voilà, la première partie de l'étrange beauté, c'est fait. Et le concept veut que maintenant, nous partions d'une autre photo que j'ai cette fois-ci choisie et que tu ne connais pas, Alban. Donc je vais te la montrer.
J'atteste que je ne la connais pas.
Voilà, je te la présente.
Ok.
J'ai rien pris de... Je te laisse évidemment un peu le temps de l'observer puisque tu ne la connais pas. Et puis, bah, comme tout à l'heure, tu vas pouvoir la décrire. Il y a peut-être des détails, des lumières, des plans qui te parlent.
Yes, carrément. Donc, on fait face au Théâtre National Bretagne. Alors, c'est le TNB si je ne m'abuse. Donc, je ne suis pas de Rennes, mais je commence à connaître un peu. Donc, il y a le Théâtre National de Bretagne. Il y a l'UBU aussi. L'UBU, ce n'est pas une salle de spectacle ?
Si.
Ouais, c'est ça, ok. Donc, il y a ça à gauche. C'est en gros photo prise d'un piéton ou une piétonne, en l'occurrence, je suppose. Voilà, il y a le Théâtre National de Bretagne à gauche, UBU à droite. Il y a une rue, une grande rue avec des voitures et tout. Je crois qu'on est plutôt en fin de journée ou alors en début. On voit le ciel bleu un peu au fond, mais il y a pas du brouillard.
Si, il est un peu gris.
C'est un peu gris, ouais.
L'impression est pas terrible. Brumeux, mais ouais.
Voilà.
Breton, quoi. Temps breton.
Temps breton, exactement. Et puis voilà, c'est une photo de vie, je dirais. Voilà, on voit les voitures, on voit les gens. C'est une tranche de vie. Et il y a aussi, putain, c'est fou, je viens de le voir. Il y a des branches au-dessus. Voilà, on voit qu'il y a l'arbre derrière qui déborde sur le haut de l'image. Avec des branches et ça c'est oula, ça c'est fin d'hiver, début de printemps, ça je dirais fin d'hiver, il y a encore des bourgeons, il commence à y avoir des bourgeons, donc voilà, ça va bientôt fleurir, ça va être un bel arbre, mais en attendant c'est que des branches à nu.
Est-ce qu'il y a une sensation, une évocation quand t'as vu là, cette photo? Est-ce que ça t'a fait penser à quelque chose? Est-ce que ça t'a fait rien?
J'aime bien l'ambiance, je trouve qu'il y a un petit côté chaleureux, comme je disais, fin de journée, petit soleil bleu, et le fait que tu vois que la ville est en train de vivre, ça me parle pas mal, ouais, j'aime bien.
Alors moi je te l'ai choisie pour deux raisons, un peu parce qu'elle représente l'endroit et la raison pour laquelle on s'est rencontrés, même si sur la photo on ne voit pas le bâtiment de la radio ici, mais il est juste après le TNB.
C'est vrai, voilà. C'est très vrai.
Parce que quand même, nous, c'est un peu une rencontre totalement improbable. Hein. Normalement, on n'aurait pas dû se rencontrer. Et j'ai choisi cette photo aussi pour ce qu'elle peut symboliser de ton ultra-présent, ton intense présent, vu que c'est la découverte de Rennes, de la Bretagne et de ta formation dans le monde de la radio à Guichen. Et alors moi, je voulais savoir pourquoi tu avais choisi cette voie, la radio, le monde de la radio.
C'est une bonne question. Alors à la base... La radio, je m'en foutais un peu quand j'étais plus jeune. Elle passait dans la voiture et tout. Voilà, j'ai jamais trop écouté. J'écoutais en quatrième sur mon radio réveil. Et j'écoutais en scred. Mes parents, ils voulaient que je dorme. Et là, je mettais Radio Scoop, l'équipe de nuit. J'étais vraiment sur le bord de la captation. C'est-à-dire que des fois, ça captait plus. En plus, j'étais coupé en pleine émission. Et ça rigolait bien. Il y avait de la musique. Ça faisait des jeux et tout. C'était cool. C'est là même mon premier passage à la radio. Il y a un extrait de moi qui existe où je dis pourquoi ce que je regarde en premier chez une fille, c'est ses cheveux. Voilà.
Et
en troisième.
Pourquoi? Parce que t'avais...
J'avais appelé, ouais.
Ah, ok.
J'avais participé, ouais. Mes parents, ils m'écoutaient dans le salon et tout. Ouais. Voilà. Et après, la radio, ça s'est tassé. Et je sais pas pourquoi. Mais il y a un moment où, justement, je fais de l'animation. J'ai même fait, du coup, des études en animation socioculturelle après la fac que j'ai vite envoyé balader. Animation, les colos, être animateur, je kiffe. Je kiffe l'interaction. J'aime discuter. J'aime animer. J'aime évoquer potentiellement des sujets divers et variés. Et puis voilà, il y a l'exemple des radios beaucoup où on voit les gens rire et tout. Enfin, et je me suis dit, ce serait cool de tester. Et donc après ma formation, pourquoi j'ai fait de la radio, c'est vrai. C'est parce que là, je suis à Liège à ce moment-là, en troisième année de BUT carrière sociale. Normalement à Grenoble, mais je fais un an en Erasmus. Et autant je passe une année de dingue à Liège, c'est un truc de ouf, j'adore ça. Mais aussi, je passe pareil, chute libre. Chute libre moralement, c'est eczéma, c'est insomnie, c'est embrouille avec mon meilleur pote.
Après Liège.
Pendant Liège.
Ah, pendant Liège.
La fin de Liège, ouais, ça toc. Aussi, je développe des tocs et tout. C'est chaud, c'est terrible. Et j'avais prévu moi de faire saisonnier. Voilà, de kiffer et tout. Voilà, c'est saisonnier. Globalement, tu fais la fête. En plus, avec d'autres potes, on avait prévu de faire ça. Donc, tu bouges, tu fais la fête et tout. Et je vois à quel point ça va pas du tout dans ma vie. À quel point je suis vraiment je sais plus, à deux, alors c'est pas sans tu dessous, mais bref, globalement ça va pas, et je me dis ok, en fait là je vais prendre une décision, je vais avoir besoin de stabilité, je vais rentrer à Grenoble, là où j'ai un pied à terre, je vais commencer une thérapie pour aller mieux, et il faut que je trouve une occupation à côté quand même. Et je regarde les services civiques, et au pif, comme ça, je mets radio, parce que je m'étais quand même dit que c'est un truc qui pouvait m'intéresser, et je vois que ça existe. Je me dis, putain, mais c'est improbable quand même, des services civiques dans la radio, parce que la plupart des services civiques, c'est genre animation, sociale et tout. Et donc, j'y vais, et je passe une année de malade à la radio. C'est hyper stimulant, en plus, la liberté de la radio associative. Surtout à Radio Grésivaudan, c'était trop cool, j'ai pu tester plein de choses, on m'a laissé prendre la place que je voulais. Et globalement, ils me disaient, tu veux faire quoi? Et j'étais en mode, mais moi, je suis un liquide. C'est-à-dire que je prends la place qu'on me laisse. Et donc, j'ai fait plein de trucs. À la base, c'était animer une émission musicale. Puis en plus, après, ça a été... je me suis mis à animer un jour par semaine la quotidienne d'infos locales et culturelles. On a monté un projet aussi. J'ai participé à monter un projet de tournée dans les festivals, des campagnes rurales, tu vois, de musique, de danse, de trucs. Et on faisait des délocalisés là-bas. Et pareil, j'ai fait pas mal d'autres trucs. J'ai participé à des ateliers et tout. Et après, ouais... Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas forcément prévu de continuer la radio. J'ai kiffé, mais je savais pas. Se professionnaliser dans un truc, tu vois, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu enlever la fougue, tu vois, enlever l'innocence de la passion, tu vois.
Je vois ce que tu veux dire.
Voilà. Ouais. Se plier à des règles, des fois, c'est un peu galère. Et donc, j'avais pas forcément prévu de le faire. Et c'est juste que je suis parti chez mon parrain pendant 6 mois, là, 5 mois. Il m'a proposé de le suivre pour monter un... Parce que du coup, en fait, au final, excuse-moi, le service civique s'est arrêté et j'étais en mode, ok, bah là, c'est bon, je vais pouvoir bouger, j'ai envie de dire oui à tout, donc je prévois rien, je vais juste kiffer avec mes potes. Et sauf qu'en fait, mes potes, moi, ça fait un an qu'ils sont déjà en train de faire d'autres trucs. Et donc moi, quand je les appelle en disant, hey, gars, on va kiffer ou quoi? Ils disent, mais enfin, on n'est plus là, mec.
Ouais,
et donc, mon parrain, en parallèle, il me propose de le rejoindre sur un projet. Il habite à Clisson, à côté de Nantes, et un projet d'escape game. Et je dis, putain, bah let's go. Et donc, on monte ensemble à l'escape game. Je vis chez lui à Clisson de septembre à décembre. Et c'est super. Je suis très content de ce qu'on a produit. C'est un escape game qui roule, un escape game itinérant et autonome dans la ville de Clisson pour découvrir un peu le bled. On a fait un truc super. Mais par contre, c'est vrai que ce qui pêchait, du coup, c'est que j'avais pas de vie sociale, tu vois. Et ça, j'avais même pas de chambre. J'étais derrière un paravent.
Ah ouais.
Donc, ouais. C'est marrant, mais c'est
pas trop longtemps.
C'est pas la vie. Et ça, ça m'a pas mal angoissé aussi. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et j'ai repensé à ce truc de radio. Je savais qu'il y avait formation de la school et tout. Je me suis dit, allez, vas-y, je tente. Et donc, je suis là. Et je suis là pour apprendre. Mais j'ai pas de projet derrière. C'est juste, encore une fois, ça me traverse. Et puis, on voit ce qui en sort.
Et alors, comment t'as su comment tu as connu la school?
Ah, c'est Sylvain qui te demande ça, tu veux que je fasse la propagande de la school?
Non, c'est parce que j'y pense, le fait d'être à Grenoble ou dans le coin, peut-être parce que t'étais à Nantes ou...
Non, pas du tout, c'est parce que, alors quand j'étais encore à la radio, Radio Grésivaudan, mon père, qui kiffait que je kiffe, m'a dit, tiens, regarde, il y a les radios ici, ils proposent un truc en alternance en 2 ans, tu pourrais tenter. Je me dis, pourquoi pas? Donc, et en plus, je suis très encouragé par la co-directrice de Radio Grésivaudan, qui est en mode vraiment la radio. Enfin, il y a un truc avec toi, tu vois. Oui, hésite pas à te lâcher. Et donc, je postule à ici. Lettre de motivation. Ils me disent, ok, envoyez une vidéo de vous 2 minutes. Je fais une vidéo de moi de 2 minutes pour me présenter. Ils me disent, ok, super, on va se faire un entretien maintenant. Entretien. Ça parle d'un peu de moi et tout, ça va. Puis à un moment, ils me disent, bon. On va faire, dans le cadre de l'entretien, on va faire des questions de culture générale, il y en a 10. Si vous avez 5 sur 10, c'est pas grave, mais c'est bien d'avoir mieux. Enfin, c'est bien d'avoir plus, tu vois.
Ouais.
Ok. Bon, j'ai eu 3. Ça a été... À la fin, on rigolait carrément pendant le test, parce que c'était, citez-moi 2 fromages à OP d'Auvergne. Si je vous dis George, John, Paul, qui est le quatrième? Alors putain, maintenant
Ringo,
que je sais. Bah oui, voilà. Maintenant ça, je sais. Il y a eu d'autres questions aussi à la con, là, et je me suis boité... Je me suis boité, c'était bien viandé. Et donc après, j'étais en mode, bon bah c'est mort, tant pis, je sais pas ce que je vais faire. Et plus tard, le gars avec qui j'ai fait l'entretien m'a dit, bah si vous voulez, il y a ce même cursus à la school radio, donc postulez. Et c'est là que je l'ai fait, je postulais pour le truc en 2 ans. Puis après on m'a dit, non mais en fait ça pourra pas se faire en 2 ans, mais il y a le truc en 6 mois. J'étais en mode, putain mais ils vont continuer à me rediriger combien de temps? Et j'ai postulé à la school. Le lendemain de la clôture, ouais, putain, j'ai failli faire quelque chose de grave. Le lendemain de la clôture des inscriptions. Mais comme c'était un dimanche, ils n'ont pas fermé le formulaire, donc j'ai eu de la chance et je suis passé le lundi. Et le lundi, j'étais convoqué à Rennes pour le mercredi.
Ah, mais je savais pas ça.
Ouais,
ras
du cul, comme on dit chez
ouais,
moi.
Ouais, ouais, ok, voilà. D'accord, ok. Alors, juste un petit mot quand même, parce que sur la photo, on revient un petit peu à Rennes. En fait, on le voit pas, mais on sait, enfin, moi, je sais que la gare, elle est pas loin. Et alors, pour moi, une gare, c'est vraiment la symbolique du voyage, de l'horizon inconnu. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé un peu, tu aimes ça, voyager. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots ou deux, trois phrases?
En fait, je suis quelqu'un qui... Je sais pas, en fait, je suis quelqu'un, j'aime pas cette formulation. J'ai envie de tout vivre. Tu vois, dès que je... Alors c'est marrant parce que des fois je dis non à plein de trucs parce que j'ai la flemme ou ça me stresse. Mais par contre, à la base, j'ai envie de tout vivre, j'ai envie de tout explorer. La perspective de pas vivre certaines choses, j'aime pas ça. Et donc, je me suis toujours dit, je veux voyager, sans jamais trop voyager en plus. Je suis allé avec mes parents, on est resté, tu vois, on a fait l'Italie deux fois. Et après, c'était dans les villes de France.
Oui. Mais après, c'est du voyage aussi.
Ouais,
hein.
Non, mais c'est du voyage carrément, mais j'avais pas trop connu ça. Et c'est après, petit à petit, avec des colos, je suis allé en Angleterre. Puis après, je sais même plus dans quel ordre ça s'est fait. Il y a eu les voyages scolaires. Et puis en fait, je suis allé aux États-Unis aussi avec le lycée. Et en fait, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux trucs, j'adore ça. Donc avec des colos, en tant qu'animateur, en plus, tu commences quand tu trouves des bons contacts et des bonnes opportunités, c'est sympa. J'ai pu aller en Écosse, j'ai pu aller en Angleterre encore, j'ai pu faire l'Espagne, la Sicile, et là l'année dernière je fais la Norvège aussi, et là cet été normalement, si je veux pas me porter à lui, c'est l'Islande, et j'adore ça.
Oh là là.
Ouais, carrément, et vraiment la consécration du voyage entre guillemets que j'ai fait pour l'instant, c'est un voyage de 2 mois en interrail, en train avec 2 amis, où on a voyagé, on a fait toute l'Europe de l'Est presque, et putain, la liberté. Ça, c'était un truc de ouf. C'est la première fois que je voyageais tout seul, en fait, vraiment. C'était ça. En fait, je parle des voyages, des expériences, on s'en fout un peu, en fait. Mais par contre, ouais, l'interrail, c'est la première fois que je voyageais tout seul et que j'avais pas d'enfant à ma charge parce que j'étais pas en colo. Je parle comme un daron, mais non, là, j'étais pas en colo. Donc, c'est la première fois que je voyageais juste librement. C'est la première fois que je prenais des vacances. J'ai jamais pris de vacances parce que dès qu'il y en avait des vacances, soit je prenais rien chez moi, soit j'étais en colo. Oui. Et là, je voyageais avec 2 amis. Et on faisait ce qu'on voulait. T'as un truc de ouf. Et j'ai découvert, découvrir des paysages, de la nourriture, de dire j'ai envie de voyager ou j'ai pas envie de voyager, j'ai envie de visiter ou pas.
Les odeurs aussi.
Mais tout, c'est ça. J'ai vu des trucs qui sont dingues. Et pareil aussi, c'est un truc qui a joué aussi parce qu'il y avait pas l'enfant, mais il y avait pas les parents non plus. Parce que quand je voyageais, sinon c'était avec mes parents ou avec les profs. Donc là, voilà, premier voyage. Et c'est ça qui m'a vraiment donné le goût, le vrai goût du voyage. Et pas juste de... Oh, j'aime bien voyager parce que c'est bien, on découvre des paysages. Là, ça m'a vraiment... j'ai compris ce que c'était de voyager avec cet interrail et j'attends qu'une chose, c'est de repartir, en fait.
Ça te prend au trip, quoi. C'est vraiment
Ouais. C'est ça, et même, c'était en train, c'était sympa. Mais pareil, je suis un enfant à un certain point. Je déteste le sentiment de contrainte, tu vois. Je n'aime pas ça. Et donc, le train, c'est bien. Mais à un moment, par exemple, sur l'île de Rhodes, en Grèce, on a loué une voiture. Et la liberté que t'as avec une voiture où tu peux aller où tu veux, en une journée on a fait le tour de l'île et tout, j'avais le sourire aux lèvres, j'arrivais pas à m'arrêter, c'était trop bien, la liberté quoi. C'est ça voyager aussi, et j'ai trop envie.
Tu vas trop vite pour l'émission.
Pardon.
Mais je te redirai après, okay. Tu comprendras tout à l'heure.
Excuse-moi.
non, je rigole, hein, c'est une blague.
Ouais, non, je me doute, mais c'est vrai.
Tu vas comprendre pourquoi.
Ouais. Mais tu me lances aussi, c'est ta faute.
Oui, c'est ça. Bon, on va rester sur le même principe que la première partie de l'émission et on va se laisser porter par une nouvelle mélodie choisie par moi cette fois-ci. Je vous laisse découvrir, chers auditeuristes, comme je te laisse découvrir toi, Alban, qui j'ai choisi, car le mystère reste entier pour le moment.
J'ai 2 amis qui s'appellent Albin de la Simone et Jeanne Chéral. Je comprends, moi aussi je les aime bien. Et en fait, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais en fait, on est d'accord sur une chose, sur une chanson qu'on aime beaucoup tous les trois, qui est une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Les gens qui doutent. Voilà. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Une chanson interprétée ici par Vincent Delerme, Jeanne Chéral et Albin de la Simone, « Les gens qui doutent », écrite par Anne Sylvestre et sortie en 1977, l'année de ma naissance. Je ne sais pas si tu connais cette chanson, mais je te l'ai choisie pour ses paroles, pour ce qu'elle suggère, pour ce que je crois deviner de ta sensibilité. Est-ce que cette écoute t'évoque quelque chose en particulier? Est-ce que tu la connais déjà, cette chanson?
Je ne connais pas du tout. J'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment eu des moments qui m'ont parlé. Ouais, j'adore.
Alors moi, ça me fait drôle. Là, c'est que en réécoutant, parce que là, du coup, je l'écoute d'une autre façon.
Tu étais
en face de moi. Et j'ai l'impression que ça résume la première partie de tout ce que tu nous as raconté.
Mais je te jure, en fait, je trouve ça fou même de la découvrir que maintenant, en fait, cette musique, parce que c'est pareil. Oh, dis donc.
Ah non, mais là, c'est... Voilà. Et alors, il y a aussi une autre raison. Alors, je ne sais pas si tu veux nous dire... juste c'est ça. Cette histoire de résonance qui t'a un peu frappé aussi.
Ouais, carrément.
Et alors, moi, j'ai une autre raison, c'est Anne Sylvestre. Elle est, à mes yeux, un symbole hyper fort du féminisme des années 70, mais aussi après. Et je me disais que c'est un sujet dont on n'avait jamais parlé dans le bus du matin, le ou les féminismes. Et alors, j'ai envie de te poser la question un peu provocatrice. Alban, quel féministe es-tu?
Mais c'est, tu vois, ça va être difficile à répondre parce qu'en fait, je suis... un féministe qui ne comprend pas le féminisme, dans le sens où je comprends pas qu'il y ait besoin, tu vois, c'est un truc, c'est pareil, c'est comme la politique et plein d'autres choses, en fait, il y a des choses, je ne comprends pas qu'il y ait des questions qui se posent, tu vois.
Ah oui, je vois bien.
Et donc c'est pour ça que c'est même pas une question d'engagement ou désengagement, c'est juste, j'ai jamais été pris par le fait qu'il y ait besoin, enfin je sais pas comment expliquer, tu vois, je suis humain et on l'est tous et ça fait vraiment réponse un peu ouais tu sais les deux doigts en l'air comme ça non si on s'aime tous et tout, mais c'est vrai, tu vois, et justement même c'est en grandissant et avec les prises de parole et tout qu'on se rend compte qu'il y a un vrai déséquilibre et des vraies inégalités. Et ça, à chaque fois, ça me choque un peu plus parce que je me dis, mais pourquoi, putain, je comprends pas. Et voilà. Donc, moi, je suis le féministe. Je sais pas, est-ce qu'il y a un adjectif pour décrire ça, pour, comme type de féministe ?
Non, mais tu t'as expliqué, t'es un humaniste.
Bah, voilà, peut-être.
Peut-être que
voilà,
c'est ça.
J'ai envie de dire ça, ouais. Ça sonne bien.
Et alors, dans cette chanson, il est aussi question de fêlure, de mélancolie et aussi de tendresse, de gentillesse. Et bah, moi, je retrouve tout ça en toi. Alors, je sais pas, est-ce que tu partages ? Est-ce que tu te reconnais aussi dans tous ces qualificatifs ou...
Mais maintenant, ouais. Tu vois, c'est fou, en fait. Cette émission, tu vois, si on l'avait fait un an auparavant, ça aurait pas eu la même gueule que si ça avait été encore fait un an encore avant. C'est assez dingue. Ce qui s'est passé, tu vois, ça arrive que maintenant, mais moi j'ai perdu du coup ma mère le 22 janvier 2021 et à partir de là ça a été un peu la dégringolade et j'ai eu un peu cette image de, tu vois, il y a un grand puits et je descends des marches et tant que je vois les rayons du soleil ça va, donc je continue de descendre, je me dis que tout va bien, puis je continue à voir un peu les rayons et tout, et en fait à un moment je les vois plus, les rayons du soleil, il fait tout noir. Mais sauf que je suis déjà très très bas, c'est pas un truc où je suis tombé d'un coup. Et là.
Ah oui, ça doit être perturbant.
Enfin, ouais.
Ouais.
Tu vois, c'est
ouais,
là en fait, je vois que c'est un travail de longue haleine de cette chute, entre guillemets. Et du coup, là maintenant, ça fait, comme je t'ai dit, tu vois, il y a eu la thérapie et tout. Et je me rends compte maintenant de la sensibilité, je me rends compte d'à quel point je suis anxieux dans la vie, je me rends compte à quel point j'ai souffert de certaines choses et j'ai peur d'autres trucs et tout, parce que pour moi c'était normal, tu sais, tu manges toujours le même plat toute ta vie, tu te dis que c'est pareil pour tout le monde. Et donc non, maintenant je me rends compte, et donc ouais, là c'est pour ça que cette chanson elle me parle, mais tu me l'aurais fait écouter il y a quelques années. Parce que je pensais que je m'en foutais de tout. Je pensais que j'étais pas, ouais, comme je te dis, je me rends compte pareil de la passion que je peux avoir, les trucs qui me traversent et tout, d'un point de vue introspectif. J'ai énormément eu d'évolution ces derniers temps, donc ouais pour ta réponse, oui, je sais même plus si c'était une réponse où on pouvait répondre par oui ou par non, mais
si t'es d'accord,
mais
enfin,
ouais,
tu
du coup
partages,
ouais, et bah ouais, et bah voilà,
gros mélange de un petit côté mélancolique en même temps hyper joyeux et de tendresse et tu,
ouais,
voilà,
et ouais, ouais, c'est
on ça. Sent les fêlures, enfin on en a c'est parlé ça. Un petit peu dans le bus,
ouais, c'est
et,
ça,
et que tout peut cohabiter dans la même personne. Et...
Ouais, il y a encore des arrangements à faire entre voisins là pour la cohabitation.
Ouais, mais ça c'est toute la vie aussi. Hein.
Ouais,
mon grand âge me permet, me permet de te le dire.
Okay.
C'est toute la vie quand on est très sensible, oui. Mmh. Et puis même pour tout le monde, je crois.
Bah ouais. Écoute, dans ces cas-là, j'ai hâte d'arranger la cohabitation.
Bah elle est déjà bien démarrée, je crois, non ?
Ah, il y a quand même du travail encore.
Ouais.
Hein. Ouais.
Ah bah moi je me dis qu'à 23 ans avoir cette maturité-là, c'est déjà bien.
Après, est-ce que c'est de la maturité ? Je sais pas. Il y a aussi beaucoup de peur. C'est surtout ça. Il y a beaucoup de... Il y a mélancolie, oui, mais il y a beaucoup de mélancolie aussi, ouais. Mais beaucoup de peur, putain. Ça, je m'en rends compte aussi. Et ils en parlent aussi dans la chanson.
Oui.
C'est ça aussi. Ils peuvent faire, ah ouais,
oui.
Les gens qui doutent. Ouais.
Oui.
Les gens qui ont peur.
Ou qui se remettent en question.
Qui ouais.
ont cette capacité-là aussi. Il y a...
C'est arrivé aussi plus récemment, ça.
Ouais,
ouais, ouais. Ouais. Mm. C'est assez marrant. Ouais. Avant, il y a vraiment... Il y a eu un gros changement entre il y a quelques années, comme je te dis maintenant. Et avant, il y avait plein de problématiques qu'il y a maintenant. Mais juste, ces problématiques-là, je ne sais pas, elles se sont accentuées ou quoi. Ou juste, en fait, maintenant, je m'en rends compte, alors qu'avant, c'était un déni. Ouais.
Oui, bah c'est ça. Tu as peut-être ouvert les vannes aussi. Juste accepter de regarder... un peu plus à 180 degrés.
Ouais, peut-être.
Peut-être.
Ouais, peut-être.
Alors pour moi, dans cette chanson, j'y vois aussi la question de la liberté. Et c'est drôle parce que tu l'as dit tout à l'heure. Et je voulais te demander ce que c'était être libre pour toi. Quelle serait ta définition ? Donc forcément, tu vas nous parler du voyage, puisque tu l'as dit tout à l'heure.
Ouais.
Et est-ce que tu rajoutes ou est-ce que c'est vraiment la liberté, c'est voyager ?
Non, parce que c'est pas que voyager, la liberté. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ma liberté, ce serait... ce serait accepter. En fait, ma liberté, c'est con, hein, putain, à dire, mais ce serait c'est me sentir libre. Tu vois, c'est le truc. Si j'arrive à me défaire de certaines chaînes, tu vois, ce serait ça ma liberté. Accepter. Je pense que la liberté, c'est déjà s'accepter avant qu'on passe au truc de ouais, la société, c'est les lois, je sais pas quoi. S'accepter vraiment et être en mode pas se sentir mal, de ressentir quelque chose, accepter ce qui vient. Et faire notre popote avec ça, tu vois. Ça, déjà, je pense que c'est une forme de liberté que j'ai pas encore. Voilà. Je pense sincèrement que c'est encore galère. Mais ouais, et du coup, il y a d'autres formes aussi. Comme tu dis, le voyage, carrément, c'est un truc... c'est ça, je pense que c'est oser, quoi. Tu vois, c'est vivre le truc. J'ai un
la
peu
voiture
ce truc-là.
Aussi, t'as dit.
Ouais, la voiture.
Ouais,
putain, la voiture aussi.
Ouais.
Mais c'est pareil, la voiture, c'est libre. Mais par exemple, si tu bois de l'alcool...
Oui.
Et bah ça, et c'est pour ça que je déteste prendre la voiture. Je déteste aller avoir la voiture avec moi. Pourtant, j'adore conduire, c'est ça qu'il faut. J'adore conduire, mais j'aime pas avoir la voiture à proximité parce que ça veut dire que je suis responsable. Qui dit responsabilité dit contrainte. Qui dit contrainte dit manque de liberté. Donc la voiture, c'est à la fois vecteur de liberté et à la fois trop de contraintes.
Wow.
Donc je suis.
Ça va vite dans ton cerveau.
Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je prends le métro.
Ouais, d'accord. Et ben on finit là-dessus. Tu prends le métro même si t'aimes la voiture.
Ouais, vas-y.
Et avant de finir. Quand même, il y a le moment de ta carte blanche.
C'est vrai, petite carte blanche. Du coup, hop, c'est dans la sacoche, j'ai un petit papier. Merde, hop, je fais tout tomber.
Tous les gros mots.
Ouais,
oh là
alors
là
c'est
là
vrai
là
aussi, un truc pour me décrire, je suis très vulgaire. Et ça, ça vient de mon père. Il dira que c'est pas de sa faute, mais en vrai, lui, c'est un ouais, campagnard, pompier et tout, hyper vulgaire. Typiquement, pour donner un exemple aux gens, une fois, je lui ai demandé de m'amener quelque part, quand j'étais plus jeune, tu vois, j'avais genre 14 piges. Il m'a dit, peau de mes couilles, t'y vas à pied. Et voilà, alors plusieurs trucs à prendre en compte. Déjà, à ce moment-là, j'ai 14 ans, on vit dans une campagne de 500 habitants, je peux pas me déplacer, tout simplement. Et en plus, peau de mes couilles, c'est une expression qui n'existe pas dans le dictionnaire. Donc c'est juste, c'est gratos, c'est juste gratuitement vulgaire. Et moi, j'ai pris de ça, voilà. Donc, ok. Hop là, donc la carte blanche. Donc on a parlé de mon père, mais mon père avec j'embrasse d'ailleurs. Mon père, avec qui on a une relation très forte, qui s'est vachement développée avec le temps. Et bien là, c'est ma mère plutôt. Il se trouve que ma mère, avant de partir, elle a été malade quand même un peu moins d'un an, et elle a écrit un recueil de poèmes, parce qu'à la base, elle a toujours aimé la poésie, mais quand elle était plus jeune, puis après, elle a carrément arrêté toute sa vie. Et après, la maladie est arrivée, le confinement et tout, et donc je la revois tout le temps être sur le canapé. Et en fait, je me levais le matin, moi je me levais genre vers 10-11 heures et était là, assis sur le canapé, et je lui demandais comment ça allait. Et il y avait deux réactions possibles. C'était soit ouais, bon, ça va. Ou alors c'était ah ouais, j'ai eu plein d'idées cette nuit, je me suis levé trois fois, j'ai écrit trois poèmes, oh, putain, c'est super et tout. Donc voilà, ça a vraiment été un truc hyper important. Et ce recueil de poèmes, c'est. Je sais pas, si je le choisis maintenant, c'est pareil. En vrai, ça, si je l'avais. S'il y a 6 mois, je l'aurais pas choisi, le recueil de poèmes. Il se trouve que c'est juste, j'ai compris récemment à quel point j'étais anxieux et à quel point ma mère l'était aussi, et que c'est un truc qu'on partage. Et ça, c'est un truc de ouf. Et donc, j'ai pris un poème de son recueil.
Donc, l'autrice, c'est ta maman.
L'autrice, c'est ma maman, c'est ça. Et d'ailleurs, le recueil.
Comment elle s'appelait ?
Sandra.
Sandra.
Et ce recueil est illustré par son frère jumeau. C'est lui qui fait les dessins à chaque fois, il dessine super bien. Et donc, attends, j'ai pas noté le titre, je crois que c'est Promettez-moi. Et donc voilà, le poème c'est ça. Promettez-moi, si je ferme les yeux, de ne pas douter de mon courage. Je n'ai jamais rien fait de glorieux, j'ai survécu à tout âge, au milieu de vous, écorché. Le courage, c'est ne jamais renoncer. Voilà.
Wow.
Et ouais, et surtout quand on connaît la fin de l'histoire,
oui.
Ouais, c'est assez puissant, c'est un truc qui a marqué. Je pense que c'est la troisième fois que je lis ce recueil. Il est important, mais c'est pas un truc avec lequel je me promène tout le temps. Et voilà, du coup...
Et pourquoi celui-là en particulier ?
Parce qu'il y en a plein d'autres, des très beaux poèmes dans ce recueil, mais celui-là, je le comprends, tu vois, maintenant. Je le comprends et je le vis aussi. C'est un truc où, ouais, la liberté, c'est bien, tu vois, mais il y a aussi beaucoup de combats, tu vois, et c'est... Il y a pas mal de ça, et en fait, c'est un truc... En fait, je crois que c'est aussi ce poème, c'est un truc que j'aurais aimé en parler avec ma mère, tu vois. Il y a une frustration de... Je comprends à quel point on était proches, maintenant, et ça, tu vois, c'est un truc que j'aurais pu en parler en mode, putain, mais oh, je comprends, viens, on en parle, et viens, on se développe ce truc qu'on partage et qu'on savait pas, ou je savais pas qu'on partageait auparavant, quoi. Du coup, voilà, c'est plein d'amour.
On finit là-dessus, plein d'amour.
Eh ben, on finit là-dessus. Très bien.
Un grand merci, Alban, pour ces pas de côté bien sympathiques et agréables, même avec l'émotion et même surtout avec l'émotion, j'ai envie de dire. Tu as fait vivre en flou fou un nouvel étrange beauté du quotidien, une nouvelle émission, l'étrange beauté
exactement.
Du quotidien.
On est libre de toute façon.
Et ça aussi, comme ta vie qui chemine par monts et par vaux, c'est une chose assez extraordinaire. Je remercie aussi Thibaut pour la création du générique et Isa pour avoir prêté sa voix. Merci à Benoît pour la technique, la deuxième fois avec nous, si je ne me trompe pas.
Merci beaucoup.
Je te dis au revoir, Alban.
Mais avant de dire au revoir, merci à toi, Eva. Quel plaisir. C'était beaucoup de. J'appréhendais, pas je redoutais ou quoi, mais c'est un exercice intéressant. Je suis très content de l'avoir fait avec toi et je te remercie pour cette humanité et ce sourire communicatif que tu as avec toi au quotidien. Et je le dis très sincèrement.
Je te crois.
Super.
Et au revoir aussi à vous, les auditeurs, les auditrices. À très bientôt pour une nouvelle histoire de vie belle et extraordinaire qui se raconte.